Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance, exhortait saint Paul dans la deuxième lecture. Voilà une belle phrase, mais qui retentit pourtant souvent à vide dans notre cœur, parce que nous ne savons pas bien ce qu'est notre espérance. Et c'est pourquoi Paul en donnait la pointe. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Telle est notre espérance. Mais on a beau dire cela, ce n'est pas toujours très clair pour nous, car notre imagination peine à se le représenter. Woody Allen disait « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. » Ou on pourrait parfois s'imaginer la vie des saints comme une sorte d'éternel garde à vous auprès du trône du divin, éternellement au garde à vous à chanter le même cantique, on va trouver ça effroyablement ennuyeux. Mais telle n'est pas l'espérance de saint Paul. Telle n'est pas l'espérance chrétienne. Saint Paul attend de toutes ses forces la venue glorieuse du Christ, la parousie. Il espère l'achèvement plénier de la transfiguration du monde par le ressuscité. Car ce jour-là, nous connaîtrons Dieu comme lui-même nous connaît. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, dit saint Jean dans sa première épître. Et nous verrons aussi la beauté de l'Église, corps du Christ, dans sa gloire. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Premièrement, que le regard de Dieu sur nous nous révélera pleinement pourquoi nous sommes aimés de lui, en quoi nous sommes aimables. Le sens de ce que nous ressentons aujourd'hui comme des pauvretés lourdes à porter, parfois jusqu'à la haine de nous-mêmes, que ce soit les infirmités de notre corps ou les infirmités de notre caractère, eh bien cela apparaîtra dans l'amour de Dieu, dans la lumière de l'amour de Dieu. Et leur fécondité à toutes ces pauvretés sera aussi dévoilée. Deuxièmement, sûr d'être infiniment précieux et infiniment aimé, nous pourrons aussi nous élancer sans arrière-pensée dans un acte d'action de grâce, dans un acte de reconnaissance amoureuse envers notre Sauveur. Lui dire merci, lui dire notre reconnaissance, lui dire notre amour. Mais il y a un deuxième aspect, c'est que partageant le regard de Dieu sur nos frères, nous serons capables de les voir comme Dieu les voit. Nous serons vus aussi d'eux comme Dieu nous voit. Je ne sais pas si nous nous rendons vraiment bien compte de ce que cela signifie. Parce que nous dépasserons définitivement ce qui aujourd'hui nous fait dire « Mon mari ou ma femme ne voit pas ce que par amour je fais pour elle, ce que je fais pour lui. Mes parents ne me comprennent pas, ils sont incapables de s'intéresser à ce que j'aime. Je suis abandonné. » Nous ne serons plus arrêtés par ces « j'ai peur d'être maladroit, je ne trouve pas les mots pour m'expliquer ». Nous nous verrons les uns les autres dans la vérité de ce que nous sommes, et cette vision sera une grande joie. Alors vivement la parousie, vivement le retour du Christ, sa venue en gloire, que nous soyons débarrassés définitivement de la mesquinerie et de la haine. Chaque jour nous devrions implorer « Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus ». Chaque jour nous devrions être impatients que le festin des noces commence, que l'époux arrive en la maison. L'attente du royaume des cieux, c'est l'attente du fiancé par la fiancée. Alors chaque minute qui passe est à la fois intolérable, parce qu'on n'est pas encore ensemble. Mais chaque minute est aussi délicieuse, parce qu'elle nous rapproche un peu plus du moment où l'union des époux sera consommée. Et c'est dans le cadre de ce désir brûlant qu'il nous faut écouter la parabole des vierges sages et des vierges folles, ou bien comme le donne la traduction maintenant, des vierges prévoyantes ou des vierges insouciantes. Quelle est la tâche de ces jeunes filles? La tâche de ces jeunes filles, c'est d'aller à la rencontre de l'époux. C'est ça leur mission. Toutes ont cette envie, toutes ont pris une lampe. Mais il faut se souvenir qu'une envie ne fait pas encore un désir. Une envie ne fait pas encore un désir. Un désir, c'est quelque chose qui se mûrit. Un désir, ça s'élabore. Un désir, ça se prépare. Un véritable désir se donne les moyens d'être satisfait, se donne les moyens d'être accompli. Ou alors, il n'est pas vraiment un désir. Il n'est qu'une velléité sans lendemain. Et de ce fait, les vierges prévoyantes, les vierges sages, préparent de l'huile en réserve. Oh, ce n'est pas qu'elles seraient dotées de capacités surhumaines, car toutes ces vierges, toutes ces jeunes filles, finissent par s'endormir. Mais chez les vierges sages, le désir s'est affiné jusqu'à envisager une attente prolongée de l'époux. Elles ont préparé de quoi être prêtes à sortir, c'est leur mission, c'est leur responsabilité, quand bien même l'heure de la nuit serait très avancée. On peut se demander si ce n'est pas un clin d'œil de la Providence, d'ailleurs, de nous donner ce texte en ce moment où nous savons que les messes vont être suspendues, les messes avec public, avec l'Assemblée, vont être suspendues pour un certain temps. N'est-ce pas la Providence qui nous donne ce texte pour que nous nous préparions à pouvoir durer, que nous nous donnions les moyens de durer en cette période troublée? Nous faisons tous l'expérience de la difficulté d'espérer ce qui tarde. Et c'est vrai, comment désirer ce qui ne vient pas? Le mouvement naturel finit par ne plus y croire. Nous avons éprouvé ces moments de joie profonde, de beauté, de certitude de la présence de Dieu et de son amour. C'était peut-être lors d'un pèlerinage, d'une retraite, d'une célébration, ou bien devant un grand témoin, ou peut-être dans notre prière personnelle. Nous avons éprouvé le désir de nous engager pleinement, de tout notre être, à la suite du Christ. Mais puis le temps distille son effet narcotique, son effet lénifiant. L'enthousiasme s'estompe peu à peu jusqu'à disparaître. On est emporté par les préoccupations banales de l'existence. À quoi bon se tenir prêt? Est-ce seulement possible, maugréons-nous dans la nuit de nos soucis quotidiens? Et notre flamme semble s'éteindre. La parabole de ce jour souligne la nécessité de se prémunir contre l'extinction de notre désir, le désir d'être prêt à rencontrer le Seigneur. Et cette prévoyance est indispensable car, le pointe la parabole, il y a un moment où il ne sera plus temps. Il ne sera plus temps ni d'acheter de l'huile, ni de franchir la porte de la salle des noces. Il y a un moment où il sera trop tard. Le Christ attire notre attention sur l'existence de cette limite. Une limite qui nous énerve, peut-être. Une limite qui nous effraie, peut-être aussi. Mais une limite qui est de l'ordre de la réalité, pas de la méchanceté. C'est maintenant que nous nous préparons, chacun, à aller à la rencontre du Seigneur. Et il y a un deuxième aspect que le Seigneur Jésus pointe, c'est que cette préparation, elle passe par un engagement personnel. C'est personnellement que nous devons nous préparer. Nous pouvons être aidés, entourés, mais c'est personnellement que nous devons faire cette démarche. Souvenez-vous de la parabole, si les vierges sages ne partagent pas leur huile, ce n'est pas qu'elles sont impitoyables, c'est que c'est impossible. Ni l'une ni l'autre ne pourraient alors remplir sa mission d'accueil. Leur lampe s'éteindrait. Pour prendre un autre exemple qui nous sera peut-être plus clair, on ne demande pas en randonnée en montagne à son voisin de partager sa paire de chaussures sous prétexte qu'on était venu en sandales. L'un aurait la chaussure droite, l'autre la chaussure gauche. Mais plus personne ne pourrait véritablement marcher. Le désir de rencontrer le Seigneur, d'être connu de lui, personne ne peut le faire grandir à notre place dans notre cœur. Saint Ignace de Loyola préconisait dans ses exercices spirituels de réfléchir lorsque l'on est dans l'ardeur de la foi à la façon dont on se comportera dans la désolation lorsque la flamme qui doit nous permettre de sortir s'éteint. Et saint Ignace nous invite ainsi donc à réfléchir, lorsqu'on est dans l'ardeur de la foi, à comment on se comportera dans ce moment de désolation qui pourra venir ensuite, en prenant des forces pour ce moment-là. Et peut-être que la première fiole d'huile qui peut nous aider à veiller, la première force qui nous est donnée, c'est la mémoire. La mémoire de ces moments où la présence de Dieu m'apparaissait clairement. Mémoire des moments de grâce et de joie que le Seigneur m'a donné de connaître dans mon existence. C'est peut-être une naissance, c'est un pardon, c'est une amitié, c'est un projet qui réussit. Me souvenir de l'ardeur de l'amour des débuts, le jour du mariage, de la consécration, le jour de ma confirmation peut-être. Faire mémoire de ces moments où la présence de Dieu m'apparaissait clairement. La mémoire du beau, la mémoire de la bonté est un allié précieux. Mais il y a une deuxième fiole d'huile dont nous pouvons nous munir, une deuxième force que nous pouvons aussi accumuler. Je peux nourrir mon âme en l'habituant à agir comme le Christ, peut-être en particulier en devenant moi-même parole de bonne nouvelle, petit évangile. C'est ce qui se produit quand je révèle et que je témoigne de ce qui est beau en l'autre. Dire le bien qui est en l'autre, même si ce bien est enfoui dans d'épaisses ténèbres de tout ce qui nous énerve et de tout ce qui nous chagrine en lui. Dire le bien qui est en lui, c'est déjà sortir de soi pour aller à la rencontre de l'image de Dieu qui est en lui. C'est donc bien se préparer à sortir pour trouver le Christ dans la nuit. Seigneur Jésus, en ce dimanche où nos assemblées ne peuvent plus se réunir normalement, nous te prions de faire grandir en nous la sagesse. Elle est le désir brûlant de ta venue. Elle est le désir de ta présence au milieu de nous. Elle est aussi effort, certes onéreux de prévoyance, mais elle est également visage souriant que l'on découvre, inattendu, au détour des sentiers qui nous rapprochent de toi. Seigneur, fais grandir en nous la sagesse. Amen.